Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule startup, Blablacar, Swile, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son directeur marketing, son chief of staff, qui ont rejoint l'aventure et qui contribuent de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ces talents. Excellente écoute à tous. C'est parti. Ravi Paul d'échanger avec toi, on va passer un petit moment ensemble. Donc là je suis Quai de Valmy dans les bureaux d'Alan. Peut-être pour que tout le monde sache qui tu es, donne-nous un peu ton état civil et ton rôle dans la boîte.
Bonjour Kamel, merci de prendre cet échange. Donc moi je m'appelle Paul Sauveplan, j'ai 35 ans et j'ai rejoint Alan il y a 6 ans et demi maintenant, au tout début de l'aventure. Aujourd'hui, je suis Chief Corporate and People Officer chez Alan. Ça veut dire globalement que je m'occupe de toutes les fonctions internes. Faire tourner la boutique à la fois sur la partie people, talent, le légal, les affaires publiques, le réglementaire et la gouvernance. Donc la relation aussi avec les actionnaires. Moi, ça a vraiment été toute ma trajectoire chez Alan de shifter de rôle en rôle en construisant nos différentes opérations internes. Donc, tout ce qui n'avait pas trait au produit. Je suis rentré en 2016, pour en reparler, sous l'angle très réglementaire, puisque Alan était la première société d'assurance à avoir un agrément qu'on a obtenu en 2016.
Ouais.
Et ça faisait une trentaine d'années que ça n'avait pas eu lieu. Donc le premier défi, c'était ça. C'était écrire nos contrats d'assurance, obtenir cet agrément.
T'as fait partie de ce projet?
C'était mon job, ouais.
Ouais, ce qui est un fait d'arme pour le coup.
C'était assez structurant, mais c'était un beau défi que Jean-Charles m'avait mis. Au concours de route, il m'a dit, bon, écoute, on était parti sur, on s'est mis 9 mois pour le faire, on va le faire en 6 mois, d'accord, on y va. Et on l'a fait en moins de 6 mois. Et puis monter nos premiers partenariats aussi, avec les réassureurs, avec tous les acteurs qui devaient nous aider à se lancer. Ensuite, j'ai progressivement shifté plutôt pour monter la partie à la fois people et finance. La compta, les premières levées de fonds, donc ça que j'ai fait pendant 2-3 ans pour continuer à grandir. Ensuite on a construit la partie affaires publiques puisqu'on a eu beaucoup de sujets de lobbying et de, on va dire, changement d'un environnement réglementaire qui était extrêmement sclérosé et qu'on a réussi à pousser, mais ça a été un bon combat aussi qui a été extrêmement intéressant à suivre et à mener de ma part. Ensuite, on s'est lancé à l'international, ce qui était le défi plutôt de 2019-2020. Comment est-ce que tu scales une boîte d'assurance à l'étranger? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, y compris en termes d'organes internes, de gouvernance, de people, de monter une équipe à l'étranger? Et puis j'ai eu l'occasion depuis 2022 de vraiment reprendre à temps plein la partie people talent, qui est ce qui m'équipe aujourd'hui le plus gros du temps, puisque la partie, ce qu'on appelle corporate chez nous, quoi, diverses opérations internes, est quelque chose qui tournait vraiment bien avec une super équipe.
Bon, on va revenir sur toutes ces casquettes, ouais. Parce que c'est super riche et particulièrement pertinent par rapport à l'ADN d'Alan, donc tout ce qui tourne autour bien sûr du people. Je pense que c'est une place assez particulière. De l'extérieur, on le voit, et de l'intérieur encore plus. Et puis les affaires légales, ça m'intéresse beaucoup parce que ça reste un business très régulé. Le monde de l'assurance, c'est un monde très technique dans lequel il y a beaucoup d'acteurs avec des enjeux systémiques énormes. Donc, je suis curieux de creuser cette partie-là. Et donc, donc avant que tu nous expliques comment t'as rencontré Jean-Charles et Charles, peut-être dans un deuxième temps, parle-moi un peu de toi en amont. C'est quoi ton parcours? Où est-ce que t'as grandi? La tech, c'est quoi ton setup de départ?
Hyper clair. Écoute, je suis né à juste à côté du bois de Vincennes, dans le 12e, Porte Dorée.
Ok.
Vraiment, entre le périph' et le bois de Vincennes. Et je pense ne jamais avoir bougé. J'ai pas un seul souvenir d'avoir déménagé de toute ma vie là-dedans. J'étais l'aîné de trois enfants. Je pense que ça a aussi compté dans qui je suis, la manière dont je me suis construit. Que dire rapidement sur mes parents? J'ai des parents qui étaient très présents. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance sur la famille dans laquelle j'ai grandi. Un père qui avait une petite boîte dans le BTP, une mère qui était à la maison, et des parents qui en même temps, qui s'étaient arrêtés tous les deux au bac, et donc pour le coup ont beaucoup investi sur nous, sur l'école républicaine. Ouais. Donc je pense aussi pas mal poussé. Et j'ai aussi beaucoup de chance que ça embraye, de rencontrer des bonnes personnes, je pense, à l'école. Ce qui m'a permis de passer les différentes étapes du système français qui, on le sait, est assez spécifique et fait pour les gens qui s'en sortent bien, plutôt.
Ouais. Donc tu fais ton lycée.
Je fais mon lycée à Paris dans le 12e. Je rentre en prépa à Louis-le-Grand. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie que je vais rive gauche quand j'arrive à 17 ans et demi à l'époque. Je passe 2 ans en prépa et je suis rentré à l'école polytechnique en 2006.
D'accord, donc tes parents ont bien bossé.
J'ai parents bien bossé.
Bravo.
J'ai passé 3 ans là-bas. Le premier vrai choix de ma carrière, ça a été une rencontre en 2008, qui était en plus un moment un peu particulier puisque c'était les premiers soubresauts de la crise financière.
Ouais.
Et j'ai eu l'occasion de passer une journée, pur hasard, mais tu verras, ma vie est plutôt faite de ces hasards-là, en tout cas, le passage chez Alan également, avec deux personnes, anciens élèves, qui avaient 5-6 ans de plus que moi et qui bossaient dans un endroit qu'absolument personne sur Terre ne connaît, qui s'appelait à l'époque l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, et qui était un petit service d'une quarantaine de personnes, un peu en mode, on va dire, price de Deloitte, mais pour le compte de l'État, donc fonctionnaire, chargé de vérifier, 1, la solidité du secteur de l'assurance, et 2, du fait qu'on ne vende pas n'importe quoi, que les acteurs et que les Français sont protégés le jour où il y a une tempête Xynthia, ou qui toucheront bien leur retraite dans 60 ans. Et j'avais été assez attiré par à la fois la technicité du métier et le côté extrêmement indépendant, autonome. On était vraiment responsable des boîtes. On touchait à la fois au public et on décortiquait des boîtes privées. Tu rentrais un peu dans la strate.
Beaucoup d'autonomie en plus.
Exactement. Donc, pour le coup, c'était vraiment comme un mini cabinet de conseil et puis des gens extrêmement intelligents autour, ce qui était assez stimulant.
Et t'avais une affinité avec cette verticale ou
pas du tout?
Pas du tout.
Pur hasard, un peu matheux, mais tu vois, c'était ça ou faire une thèse de chimie. Donc on était très loin des choses. J'avais quand même envie plutôt d'être plus proche du business. Et puis j'avais vraiment envie de tester aussi, de voir ce que c'était avec la fonction publique, voir ce que je pouvais aussi apporter. Donc je me suis lancé en 2009. Avec en plus justement la crise financière aussi jouée, parce que c'était aussi le moment de se dire il y a des choses à faire.
Okay.
Là c'est en train de secouer, que ça va peut-être faire faillite la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai commencé à travailler, où je suis resté 4 années là-bas.
Donc à la CPR.
À la CPR, ce qui s'appelle la CPR aujourd'hui, exactement, l'autorité de contrôle. J'étais en charge de supervision d'abord du DAXA France, puis du groupe AXA.
Okay.
Donc ça a été des beaux challenges que tu montes, on va dire, progressivement les marches. Le premier contrôle que j'ai fait devait être une petite mutuelle de pêcheurs, et puis tu complexifies le business à mesure que tu apprends. L'avantage d'avoir travaillé dans cet environnement-là, c'est que c'était extrêmement touché à tout. Tu touchais au légal, tu touchais à la finance, tu touchais à la strat.
Ouais.
Donc j'ai appris à naviguer ces environnements assez régulés.
Et tu discutes avec les chiffres. Tu discutes avec les opérationnels, mais aussi le management.
Avec tout le monde. C'est-à-dire que tu vas à la fois faire des interviews avec Henri de Castres ou son numéro 2, et puis les personnes de la compta pour aller vérifier, demander les investisseurs, les asset managers, etc. Et c'est ça qui est intéressant. T'apprends aussi énormément à te positionner, en fait, adapter à ton interlocuteur. Et puis avec ce positionnement qui est difficile quand t'es sans plus sortant d'école, petit junior, mais t'as un positionnement de flic, tout simplement. Donc pour le coup, t'as à la fois besoin de naviguer un petit peu plus intelligemment tes interlocuteurs, tu fais plein de bêtises, t'as du mal à te positionner au début, mais tu l'apprends. Donc ça a été honnêtement hyper formateur. Et puis moi j'ai adoré l'autonomie qu'on avait.
C'est Tanguy de Descartes Underwriting, hein, qui était chez AXA, non?
Qui était, je l'ai pas connu.
Qui faisait, tu sais, toute la partie risque climatique.
Ouais.
Il y avait un gros business chez AXA.
Ouais, tout à fait. J'en avais pas mal bossé avec eux pourtant, en plus, parce que c'était l'époque où Je ne vais pas t'embêter avec la régulation bancaire ou assurantielle, mais suite à la crise financière, on a aussi renforcé la manière dont la régulation d'assurance était faite, et il y avait en place une nouvelle réglementation qui visait à aller de manière plus fine dans la gestion des risques, ce qu'on appelait solvabilité 2, et donc c'était tout le moment où on décortiquait les modèles pour essayer de voir si les assureurs plantaient pas n'importe quoi dans leur modèle.
Ok, donc tu as cette première expérience qui est quand même très structurante, ouais. Dans un environnement régulé, avec une casquette dans laquelle tout le monde répond à ton téléphone parce qu'il n'y a pas le choix. Et tu restes combien de temps là-bas?
J'y reste 4 années, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 3 ans et demi. Ouais. Il s'est passé, en fait, ça a été un coup de chance de ma part. C'est à la fois, je commence dans la brigade AXA, et puis au bout d'un an, il y a la fusion entre cette petite autorité qui était celle dans laquelle j'étais, qui était très autonome, avec ce qui s'appelait à l'époque la commission bancaire, qui dépendait là de la Banque de France. Et donc, j'étais rentré dans un organisme où le big boss était mon N+2, habitait au même étage, où ma big boss, du jour au lendemain, est passé à mon N+9.
Ah oui, d'accord.
Avec une organisation très très différente, beaucoup plus hiérarchique. Ça a créé énormément de turnover chez les anciens qui n'ont pas supporté le choc, entre guillemets, parce que c'était culturellement trop en décalage. Donc ça a aussi été une opportunité pour moi, de prendre des dossiers plus intéressants et de monter un peu plus vite sur le groupe, notamment. Alors que le taxa était normalement plutôt quelque chose qui était réservé aux gens qui avaient pas mal de bouteilles. Donc oui, ça a été structurant pour moi parce que service public, parce que hyper hyper rigoureux, très technique quand même, mais touchant à pas mal de fibres. Après ça.
Et t'allais jusqu'à des analyses de ce que les actuaires pondaient. Enfin,
tout à fait. C'est vraiment le but du jeu. En fait, c'est ça. Moi, vérifier que les réserves sont faites correctement. Et puis j'avais une dimension internationale qui était beaucoup plus marquée que d'autres. Puisque pour le coup, le groupe AXA est supervisé dans une trentaine, une quarantaine de pays, et donc on faisait aussi la coordination sur tous les contrôles qui se passaient à l'étranger.
Donc t'étais pas bon, c'est pas beau tout le temps.
Exactement, la dernière année, oui. Mais c'était assez sympa, ça c'est l'époque où t'as pas encore d'enfant, où t'es content de partir à Singapour, tu te rends pas compte que ton bilan carbone est catastrophique.
Mais tu kiffes.
Exactement. Okay. Les hôtels m'amusaient encore.
Okay.
Donc j'ai fait ça 4 ans, mais volonté de bouger, de me rapprocher du pouvoir politique, de voir un peu ce que c'est de près, la construction de la loi, des textes, hein, d'avoir vraiment de l'impact en tant que fonctionnaire.
En amont.
Exactement, et pas seulement dans l'exécution. Et donc je suis parti 2 années à l'Inspection Générale des Finances,
okay.
Qui est, on va dire, le cabinet de conseil interne.
Mais t'avais pas des histoires de pantoufles
Alors que tu restes fonctionnaire, pour le coup, c'est encore... En fait, pour te la faire court, l'Inspection des Finances, c'est un peu le BCG interne pour le Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances. Et ils prennent chaque année 4-5 énarques, et ils complètent les promos avec 2 profils plus ingénieurs pour avoir un mix de gens un peu plus quantitatifs. Donc là, 2 années extraordinaires, comme c'est absolument fondamental pour moi, et pour, je pense, monter d'un cran, je trouve, en qualité professionnelle, et puis en termes d'amitié, je trouve que ça, tu te fais vraiment un cercle, là, pour le coup, je pense, d'amis que je garderai à vie.
Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est intense?
Parce que c'est extrêmement intense, parce que il y a beaucoup de rituels encore, du bizutage. Moi, j'ai un souvenir d'arriver en 2014. Je me suis marié le 30 août, je suis parti 2 semaines en voyage de noces, je suis arrivé du tarmac, on m'a dit, t'étais attendu le 1er septembre, donc tu viens directement à Bercy. Et le lendemain soir, j'étais dans une chambre d'hôtel à Nevers, où je suis parti 3 semaines auditer une chambre d'agriculture, où la journée tu passais tes entretiens, le soir tu rédigeais, et à 3h du mat, les gens te demandaient c'était assez particulier. Il y a vraiment une grosse quantité de travail, beaucoup beaucoup de méthodes, énormément de rigueur, les gens sont hyper hyper smart. Donc 4 mois, on va dire, de bizutage, mais qui forme l'équipe, et ensuite, on va dire, des travaux qui durent à chaque fois entre un mois et 3 mois sur un sujet politiquement, on va dire, compliqué ou sensible, que le gouvernement souhaite craquer. Et ça peut être, j'ai travaillé sur la réindustrialisation française, la négociation du traité, à l'époque, il y avait un traité qui était en discussion entre la France, l'Union Européenne et les États-Unis. Et notamment tout le volet numérique, qu'est-ce était la position qu'on voulait porter au niveau français, qu'est-ce qu'il fallait défendre, la politique du logement, donc des sujets qui sont pour le coup extrêmement structurants. Tu sais que toutes les décisions que tu vas porter, très différents, mais tu deviens, en fait, j'ai appris à la fois à être très versatile, à bouger d'un point à un autre, être capable de rentrer très très deep dans un sujet, Et puis à coordonner énormément de stakeholders différents. Après, le positionnement à l'inspection des finances fait que, je veux dire, si tu prends ton téléphone, tu t'appelles absolument n'importe qui en France, les gens vont te répondre et te donner de l'info. Donc c'est extrêmement riche, c'est je pense une expérience assez unique et je suis très conscient d'avoir eu beaucoup de chance d'avoir vécu ça.
Okay.
Et je pense que ça a aussi pas mal, pour le coup, en revanche, forgé mon caractère à la fois sur le côté très touche à tout. L'ambition de se dire en fait il y a absolument rien qu'on peut pas craquer en fait, il suffit d'aller deep dans le sujet et la boîte noire qu'on la décortique et on arrive à sortir des choses. Et puis il y avait un vrai degré d'exigence, y compris sur la qualité du rendu, mais ça je pense que tu retrouves en banque d'affaires, que tu retrouves dans des cabinets de conseil, etc. Donc d'un bon combo avec honnêtement une ambiance qui était extrêmement stimulante.
Ouais, puis quand même tu c'est un parcours qui est dans le public, ce qui est quand même assez rare de nos jours.
Il y en a encore.
Ouais, très peu. Enfin, tu vois, en tout cas, dans les scale-up, dans les boîtes qu'on côtoie, c'est quand même des parcours, en général, tous dans le privé, que t'as eu cette fibre-là très tôt par ton parcours scolaire d'un côté, et puis après, je sais pas s'il y a un sens du devoir là-dedans, mais...
J'ai du mal à dire ça, parce que, pour le coup, tu... Je trouve ça assez prétentieux. Je veux dire, t'as aussi beaucoup de chance de pouvoir être dans ce système-là. Je trouve qu'on est la haute fonction publique, un domaine où on te donne... énormément de responsabilités en étant très jeune, en fait. C'est des responsabilités que t'as pas en étant en privé, par exemple.
Ouais.
Donc, les hauts fonctionnaires s'y retrouvent.
D'accord.
En revanche, moi, ce qui me drivait, je pense qu'il drive la plupart des gens, c'est de se dire, voilà, est-ce que je propose va avoir de l'impact sur 65 millions de personnes? Bientôt 70, d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est une mentalité que j'ai essayé de garder. J'aurais pas pu bosser pour une boîte qui avait un produit qui touchait une niche, par exemple.
Et avec le degré de... enfin, avec l'envie de voir l'exécution de ce truc-là et se dire, ok, c'est Bibi qui était en amont ou...
Alors, ça, c'est là où tu vas commencer à toucher la partie assez intéressante parce que la réalité derrière, en revanche, c'est que tu sors des choses, tu travailles énormément, tu sors des choses intelligentes et puis ensuite, il faut que le momentum politique soit là. Et ça ouais. arrive assez fréquemment que tu sortes quelque chose qui va rester au placard 2-3 ans. C'est-à-dire, c'est une bonne idée, mais on peut pas le faire maintenant. Alors, il m'arrive encore de voir des choses qui ressortent, qui
c'est
sont sorties assez récemment. Oui, j'avais fait un gros travail sur la réforme de l'impôt sur le revenu, par exemple, et qui a en fait été la base des premières réformes Macron 2018-2019. Quand tu les vois sortir 3-4 ans après, tu te dis, tiens, en fait, ça, c'est effectivement, j'avais contribué à ça. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'il manque l'étape d'exécution. Et ça, c'est vrai que ça a été le choc et pour le coup la plus grande révélation pour moi dans débarquant chez Alan, en fait, de voir que tu pouvais à la fois initier et puis conduire les choses jusqu'au bout. Cela étant dit, je suis assez ravi que l'État soit pas en mode test and learn toute la journée avec on l'a fait avec les masques, mais avec 65 millions de personnes, t'as pas forcément envie de ça.
Et si on fait un petit zoom là sur qu'est-ce que t'as appris d'un point de vue donc tu parlais de rigueur, tu parlais de tu parlais de capacité à creuser des sujets très deep pour pouvoir rendre des choses intelligibles en peu de temps. C'est quoi les autres défis ou les autres enjeux? Donc, il y avait du management là-dedans ou
très peu. Non, j'ai eu du management à la fin à la CPR pour le coup, parce que je coordonnais les contrôles sur place.
Ouais.
Pas du tout de management à l'inspection, où c'était purement.
Toi et ton temps.
Exactement. Donc, pour le coup. Capacité à deep, à être extrêmement synthétique, être capable de beaucoup d'adaptations vis-à-vis des personnes que tu as en face pour tirer les bonnes infos, être capable d'avoir quand même un sens politique, d'être capable de te dire, ok, ça c'est une proposition qui a des chances d'être adaptée, ça l'est pas. En fait, t'es en permanence entre la théorie, ce que les modèles économiques te disent, ce que la littérature va te dire, et puis te dire, ok, mais comment ça maintenant je le twist pour en faire quelque chose d'intelligent, d'acceptable politiquement, qui puisse passer. Et cette corde de rappel un peu pragmatique, c'est un bon muscle à se faire parce qu'elle va pas du tout évidente. Tu sors d'école, t'as plein d'idées, mais en vrai t'es très théoricien, t'es pas du tout confronté à la réalité. Et ça a été une très très bonne école. Et puis je pense à aussi à apprendre à écouter des points de vue différents. C'est la première fois que j'avais ça. En fait, tu vas écouter. Voilà, je me repense, ouais, j'ai des souvenirs d'échanges sur le terrain assez poussés avec. Les associations de la Fondation Abbé Pierre, du droit au logement, quand tu construis des choses sur la politique du logement, aller voir ce que c'est que réellement des gens qui sont en grosse galère, des associations qui aident des personnes à se loger, etc., quitte à ce que ce soit dans des actions de squat, d'occupation, etc., ça te confronte aussi à ce qu'est la réalité. Et pour le coup, c'est beaucoup de bons apprentissages à en faire, je crois.
Et c'est politisé, ces fonctions, ou ça reste très, très...
Non, justement, t'as, l'avantage, c'est que les rapports sont pas publics. Les rapports sont... Le ministre peut choisir les rendre publics.
Okay.
Et donc, puisqu'ils sont confidentiels, t'as une vraie liberté de temps.
Okay.
Qui est l'inverse de ce que va avoir une Cour des comptes, par exemple. Le rapport de la Cour des comptes va être beaucoup plus connu, mais à l'inverse, chaque mot va être passé au trébuchet pour être vraiment mesuré et s'assurer que, politiquement, on est exactement dans la tonalité qu'on souhaite avoir.
Ok.
Donc pour le coup, c'est le revers de la médaille. Ça peut rester au placard parce que c'est confidentiel. À l'inverse, t'as une vraie liberté de ton dans ce que t'écris.
Voilà. Ok. Et donc, bon, il y a un des cofondateurs d'Alan qui vient de passer. Donc, comment ça se passe d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comment Alan arrive dans ton histoire?
Une nouvelle fois, le hasard pur et simple. Et l'entrée chez Alan a été un épisode plutôt marrant pour moi, pour plusieurs raisons.
Parce que, juste petite parenthèse, allez, à ton époque, là, il y a de ta promo, t'as des gens qui sont. C'est quoi le chemin pour eux? C'est plutôt finance, grand groupe. Toi, t'es un peu un ovni, j'ai l'impression, dans ton parcours. Et est-ce que t'as des gens qui sont dans des scale-up, start-up, machin ou...
Pas du tout, mais on est en 2015 encore.
Ouais.
Mi-2015, c'était pas du tout la même ambiance sur le fait d'aller sortir. Alors, les gens faisaient déjà de la data, pour le coup.
Okay.
De mémoire, commencer à shifter, c'est-à-dire que moi j'étais dans les promotions où à l'école on faisait tous des maths financières pour devenir compte chez Lehman Brothers. Mauvais choix. Les promos d'après ont commencé à faire pas mal de data, mais il y avait encore très peu de gens qui partaient dans la tech. Moi j'étais à des années-lumière de ça.
Ouais.
Et tout s'est passé par hasard, mais d'ailleurs en deux temps. À l'été 2015, il se trouve que mon meilleur copain de l'inspection des finances était en maternelle avec Jean-Charles.
Non.
Il est un de ses grands copains d'enfance.
Ok.
Et donc on m'a dit, écoute, j'ai un copain qui réfléchit à monter quelque chose dans la santé, qui se pose des questions. Je sais pas trop s'il va faire juste une boîte tech, s'il va faire une boîte d'assurance, une association qui bosserait avec la Sécu. Est-ce que tu veux bien déjeuner avec lui?
Ah ouais, donc c'est en amont du projet.
Ah oui, donc, on était à l'été 2015. Alan, la société est créée en février 2016.
D'accord, donc au brainstorm, quoi.
Ouais, alors c'était les deux fondateurs, c'était déjà trouvé.
Ouais, okay.
Ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose là-dedans,
okay.
Et dans la santé. C'est ça qui était certain. Et ils exploraient plusieurs voies pour trouver le bon moyen de rentrer, de construire un business qui soit un business récurrent, qui soit viable, sur lequel tu touches un maximum de personnes.
D'accord, et quand ton pote t'en parle, c'est parce que t'es un expert de l'assurance.
Exactement, okay. Il réveille la vieille corde de qu'est-ce que c'est que de créer une société d'assurance en France.
Okay.
Toi, tu connais l'univers régulé, etc. Je descends à Bercy, engoncé dans mon costume, avec ma cravate.
Mais toi, tu vas au départ pour les aider, enfin pour dire ok, c'est un pote de pote.
Pour déjeuner avec un pote de pote.
Ok.
Et je vois Jean-Charles habillé comme l'as de pique, d'un look qui détonnait complètement, très à la cool, quoi, qui détonnait complètement de ce que tu pouvais trouver au ministère des Finances. On va manger dans un chinois absolument pourri et on discute pendant une heure et demie où je suis arrivé en lui disant voilà. Écoute, moi, je te conseille de rencontrer un tel, un tel, un tel. Voilà le process que je ferais. Recruter telle personne, telle personne. Enfin, un peu le plan de moi, si j'avais à faire ça. Et puis, je pense que je lui glisse
un message. Il avait déjà de créer une compagnie d'assurance?
Lui, le deal, c'était, est-ce que tu peux m'expliquer en un déj, qu'est-ce que ça voudrait dire de créer une société d'assurance en France et comment tu t'y prendrais?
Ok.
Point barre. Donc, je me tiens à ça. L'idée m'amuse. Je pense quand même lui dire que, à mon avis, ce serait très compliqué, voire impossible. Mais que, s'il veut le faire, voilà comment je m'y prendrais. Et puis, voilà les personnes qu'il faudrait. Qui pourrait recruter, qui pourrait rencontrer. Ça a très bien matché entre nous, mais pour le coup, d'un point de vue perso, on a continué à se voir. Je lui dis, c'était d'échanger régulièrement, qu'ils avaient des questions. Je les ai briefés quand ils se préparaient à les rencontrer avec soit des gens un peu plus politiques, soit avec la CPR. Au deuxième rendez-vous, Charles a un peu plus testé en me disant, voilà, est-ce que ça te dirait de venir bosser avec nous? Et je crois que ça m'a pris à peu près 30 secondes pour lui répondre ah non mais pas du tout, moi la tech hors de question, c'est beaucoup trop loin, parce que c'était pas du tout mon ADN d'une part, et puis pour le coup on avait un projet de famille très différent, on devait partir aux États-Unis avec ma femme,
okay.
Qui est économiste et qui à l'époque là, pas à cette époque là, est en train de finaliser des concours pour entrer aux familles,
okay.
Donc de manière, mais ça a permis pour le coup de vraiment désaligner les intérêts, de pas être intéressé dans ma relation avec eux en fait,
okay.
Et ça a été hyper chouette parce que pendant 4 mois j'ai pu continuer les aider. Mais je savais que je viendrais pas.
Ok.
Et puis à l'époque, j'avais pas compris que tu pouvais demander des BSPC, des choses comme ça quand t'étais advisor d'une boîte tech.
D'accord. Donc tu l'as fait sans.
Donc je l'ai fait vraiment comme ça, par amitié pour mon pote, et puis ensuite parce que Charles et Jean-Charles, leur projet était juste incroyable.
Ok.
J'ai aussi présenté pas mal de potes pour qu'ils se fassent recruter dans le job que finalement j'ai occupé moi.
Et qui matchait pas finalement, ils ont
en
pas.
Fait c'est juste quand Jean-Charles a su que je restais en France finalement, on a rebouclé et là je me suis dit allez lance-toi.
Ok.
Donc pour repasculer rapidement l'histoire, en fait ce qui a été le trigger, c'est qu'au mois de novembre on a appris que ma femme était enceinte.
Et pour ça, c'est une excellente nouvelle.
Et donc dans notre première petite fille, et ça a tout changé, parce que l'idée de se voir tout seul à Washington, avec une femme qui voyageait énormément, un bébé sur les bras, pas de setup familial au côté, dans un pays qui est quand même en fait assez culturellement différent.
Très différent.
Et en plus, des perspectives, Washington c'est pas New York, hein. Washington, ouais. Des perspectives de bosser potentiellement à l'ambassade, mais c'est tout, un peu tout remis en question. On a décidé de faire une so-called expatriation à Bruxelles.
Okay.
Et quand Jean-Charles a appris que j'étais à Bruxelles, là, m'a remis grappin dessus et j'ai changé, moi, ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que j'étais, en vrai, pendant ces 4 derniers mois, faut aussi se rappeler du timing, on était fin 2015, c'était l'époque où on était juste avant l'élection présidentielle.
Ouais.
Et donc, tout le monde autour de moi, on disait, enfin, c'était, enfin, 2016, ah, mais, voilà, dans la fonction publique, tout le monde préparait un peu la prochaine élection en disant, ben, Alain Juppé sera à l'Élysée, on ira à Matignon, etc. Mauvais cheval, les gars, mais ça, tu pouvais pas le savoir à l'époque, quoi. Et donc, ce move de partir dans la tech était quelque chose de pas du tout compris, puisque le parcours classique, c'est soit de rester un peu en politique, soit de monter dans les grades, dans la fonction publique, soit, à la limite, de partir dans les très grands groupes. Ouais. Un directeur de cabinet chez Carrefour, chez je ne sais quoi, beaucoup moins de partir dans cette boîte-là, en tout cas.
Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que en fait, finalement, en 4 mois, tu les conseilles, un peu en shadow.
Parce qu'entre-temps,
qu'est-ce qu'ils ont délivré?
Plusieurs choses. Entre-temps, tu t'attaches au projet. C'est-à-dire que j'ai vu ce que je pouvais apporter immédiatement. C'est-à-dire que j'ai vu à court terme, ok, tu vas aller chercher le premier agrément qu'on a donné entre-temps, tu sauras faire, trop chouette. Projet excitant, mais je peux y aller. J'ai vu l'équipe qui se constituait et...
Mais comment tu sais que tu vas y arriver? Parce que même si effectivement t'as une grille de lecture côté ACPR...
Non mais t'as le défi, tu te dis tu te dis que si moi j'y arrive pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront l'avoir en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que par rapport aux gens qui étaient des insiders, qui connaissaient le système... Et je voyais l'équipe se monter au fur et à mesure avec des gens... Moi, j'étais quasiment plus jeune.
Ouais.
C'est-à-dire que Jean-Charles et Charles ont fait un travail qui était extraordinaire, qui était de prendre que des gens qui étaient au moins en troisième poste au début. Ce qui change vraiment la mentalité de l'équipe et la capacité aussi à scaler derrière. Et puis, j'ai eu aussi, moi, de mon côté, une réflexion plus à titre perso, vraiment le sentiment que si je prenais pas ce risque maintenant... Alors que, voilà, j'étais dans un setup où de toute façon j'avais habité 2 ans en Belgique, j'allais pas m'attacher à ce pays-là, donc chercher un job sur place avait pas plus de sens. Si je prenais Patrice maintenant, j'aurais fini effectivement dans un groupe du CAC 40, très bien payé, je me serais probablement
amusé. T'avais quel âge à l'époque là?
J'avais 29 ans. Ouais,
29-30 ans. Ok. Et donc tu vois l'impact que tu vas avoir et donc t'arrives rapidement à te mettre d'accord et c'est parti?
Alors, je pense que Jean-Charles a continué à tourner un peu autour parce que c'était pas... En fait, ce qui était difficile, c'est que j'avais pas mal de vent contraire. C'est-à-dire, quand on parlait autour de toi dans la fonction publique, j'en disais, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose de faire 2 ans d'inspection pour finir là-dedans? Ce qui a été paradoxal, la seule personne qui m'a vraiment soutenu là-dedans, c'était la chef de l'inspection de finances, qui a fait dans l'autre sens, qui m'a dit, mais franchement, t'as absolument rien à perdre. Au pire, tu reviens. Enfin, en fait, voilà, prends ton risque, quoi.
Oui, puis il y a très peu de risques, finalement.
Parce qu'à l'époque, tu t'amuses à grandir.
C'est quoi le manque à gagner? Ça aurait été quoi?
Tu as raté le momentum politique pour le coup. Être dans les cabinets ministériels en tout début de mandat, c'est la partie intéressante, c'est là où tu construis. Les fins de mandat sont pas intéressantes. Ouais. Donc ça, pour le coup, tu rates une fenêtre de tir de 5 ans.
Ok.
Que t'es un peu dommage. Mais honnêtement, a posteriori, rien du tout. Et puis, je pense que la lecture... y compris par des grands groupes, d'un passage dans une boîte tech aujourd'hui, très différente que ce que je projetais en 2015.
Ouais, ça. Ok, donc tu décides de...
Donc finalement, je lui dis oui, je crois que je lui ai dit oui officiellement au mois de janvier ou février.
Ok.
Et ensuite, bienvenue dans la fonction publique, t'as 4 mois de préavis pour pouvoir sortir, passer des commissions d'autologie, etc. Donc j'ai des arguments officiellement au fin mai, si je dis pas de bêtises, fin mai 2016.
Ok, et l'agrément, c'est quand?
On l'a eu en octobre, fin octobre.
Et donc là, Alan a déjà levé du cash là ou pas encore?
Alors, on ils avaient fait un tout petit seed, ils avaient fait un seed de 2 millions en mars-avril, qui était fini en avril 2016. Et le vrai premier tour,
il est post-agrément.
Il est post-agrément, exactement. En fait, on l'a fait en parallèle, et il a été débloqué sous conditionnalité de l'agrément.
Ouais, c'est ça.
En octobre 2016.
Je crois que Sagan avait regardé à ce moment-là. On n'a pas fait ce qui était. J'étais pas là. Mais... ok. Donc là, on te donne quoi comme casquette? On te donne d'abord la casquette de tous les sujets réglementaires.
Je suis en train de me demander comment je m'appelais. Je pense que c'était quelque chose comme Risk, Finance and Compliance, quelque chose comme ça.
Ok.
Donc très interne, très chiffre en fait. Ok. Pour le coup.
Donc toi, t'es en interface avec la CPR?
Je suis en interface avec la CPR, avec la compta, les auditeurs, les actionnaires. C'est ça mon taf, quoi.
Ok. Bon, et là, t'es plutôt à l'aise, je pense.
Oui, c'était nouveau. Je pense qu'en fait, on avait bien fait le job. Honnêtement, toute l'équipe était très formée. Et puis, il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, tu dois interviewer d'autres personnes de l'équipe. Je trouve que le mix qui avait été construit par les fondateurs dès le début était extrêmement intelligent. C'est-à-dire que t'avais vraiment les bonnes personnes au bon endroit, un peu de seniorité sur la partie assurance, il y avait quelqu'un qui avait déjà dirigé ça dans une boîte d'assurance qui était aussi passé par la CPR. Hein. On est arrivé dans une situation où quand on a présenté le dossier au régulateur, qui pourtant avait aucun intérêt à lancer un agrément, qui était pas habitué à ça, avait en face de lui une équipe qui était solide.
Bien financée.
Bien financée, ce qui était extrêmement rare, mais parce qu'on avait un premier imprimé entrepreneur.
Ouais.
Enfin, quelqu'un qui avait déjà monté une entreprise, pardon. Et en plus de ça, un business qui est l'assurance santé, qui est pas le business le plus risqué qui soit, parce que tu contrôles plutôt à court terme.
C'est pas l'auto ou la moto, quoi.
Voire même la responsabilité civile médicale ou le bâtiment où t'as 10, 15 ans pour voir combien tu vaux, quoi. Donc pour le coup, ils ont beaucoup, beaucoup levé la barre. C'est-à-dire que par rapport au texte, je me souviens, le premier dossier d'agrément que j'avais dû poser, il fallait une cinquantaine de pages, on a fini avec 30 annexes de plus, c'est peut-être x4 en volume de papier, de documents, de process. On a senti qu'on était clairement là pour les aider à poser la barre à un certain niveau, mais on l'a passé.
Ouais.
Et je pense que c'était un bon, pas deal pour les deux, mais philosophiquement, c'est presque comme ça que je l'ai vécu.
Ouais, en tout cas, c'était un événement majeur dans le monde de l'assurance.
C'est un petit monde, ouais.
C'est un petit monde. Et donc, une nouvelle compagnie existe sans une acquisition, parce que souvent, en fait, finalement, un broker peut devenir assureur parce qu'il rachète la licence et que même si le régulateur n'aime pas, mais bon. Et donc ok, donc t'as cette casquette là et puis t'as parlé tout à l'heure de une casquette people.
Ouais.
Quand est-ce que tu la récupères et pourquoi?
En deux temps en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai d'abord pris sous l'angle très opération parce que comme je pense beaucoup de boîtes tech en tout cas que j'ai vu, on n'a pas recruté en people, on a recruté en talent.
Ouais.
On a voulu des gens pour nourrir le pipe, certains pour recruter les meilleures personnes, énormément investir sur le process de recrutement qui, chez Alan, est très structuré. Et,
ouais, parce qu'il y avait plusieurs étapes.
Exactement, et qui répondent, en fait, et on a posé très tôt la partie culture, mais là, qui pour le coup a vraiment été arrivé à l'initiative par Jean-Charles.
Ouais.
J'ai beaucoup participé pour être assez présent, notamment y compris sur monter les premiers process de review, on a en interne, et comment je fais quoi à la culture là-dessus. Ma casquette people initiale, elle est une fois de plus très orientée process.
Ok.
Comment j'engage, comment j'automatise la génération des contrats, comment je m'assure que tout le monde est payé et comment je sors les gens.
D'accord, ok.
Que pas la partie la plus sympa à faire, mais tu muscles aussi là-dessus, quoi. Ouais. T'en as besoin. Ça m'a quand même permis d'être énormément acculturé, en fait. Et vraiment aussi faire grandir d'autres personnes en coaching, etc. Au fur et à mesure que le poste a grandi, on a fait venir une première, donc on était fin 2019, si je ne dis pas de bêtises, une vraie people officer qui était expérimentée, qui est restée 2 ans avec nous, qui a vraiment aidé à grandir l'équipe, à monter les process, et puis j'avais juste plus la bande passante, c'était pas les bonnes priorités pour moi. Et puis quand on s'est séparé là en fin Q1 2022, Jean-Charles m'a proposé de reprendre en plus de ma casquette corporate. Là, pour les coups, les choses s'étaient stabilisées, étaient lancées, la boutique tournait vraiment quasiment sans moi, de reprendre cette partie people, mais de manière beaucoup plus formelle, c'est-à-dire pas que la partie opération, mais aussi la partie culture, comment on avance. Donc pour le coup, c'est aujourd'hui, je pense, mon vrai challenge, ce nouveau changement de rôle, et en même temps, c'est ce que j'ai toujours aimé ici, c'est de pouvoir bouger en fonction de où sont les urgences pour la boîte, tester mes limites, avancer, apprendre, et en fait, dès lors que t'as toujours le bon mindset, tu te rends compte que pas beaucoup de problèmes que t'arrives pas à craquer à la fin, quoi.
Ouais, et puis avec une contrainte de à terme être rentable. Enfin, tu vois, c'est une dynamique de boîte qui est pas uniquement la croissance pour la croissance. Et donc avec, j'imagine, une maîtrise des coûts, même si j'ai l'impression que les bureaux sont en train d'être plus agrandis qu'autre chose, mais t'as quand même ce, tu vois, ce truc un peu plus compliqué à gérer, qui est à un moment, en fait, entre le mur de cash et le mur de rentabilité, il faut délivrer, quoi.
Et où, en même temps, je pense que le fait d'être capable de connecter ma vraie force, je pense, y compris avec l'histoire et puis ce que je t'ai raconté dans mon parcours, c'est, je pense que tu tires à peu près une ficelle chez Alan, je sais où ça sonne. Et ça, mine de rien, ça a beaucoup de valeur.
Ouais.
D'avoir
tout le mapping de ça, tu veux dire?
Ouais, exactement. Et d'être capable d'anticiper où sont les points de friction. Je vais étudier telle chose, mais ça va trigger telle chose en social, telle chose en taxe, telle chose en gouvernance. Ça va être un problème là-dessus en business. Et en même temps, c'est une position que moi j'adore.
Et tu parlais tout à l'heure de la relation investisseur également. Ouais. Donc, tu participes au levée de fonds. Ouais. Est-ce que tu es au board? C'est quoi ton rôle là, par rapport à ce plan-là?
En gros, moi j'ai l'idée de toutes les levées de fonds. Alors, Jean-Charles avec les relations avec les actionnaires. Et ensuite, moi j'ai l'idée de l'exécution de toutes les levées de fonds jusqu'à la série E.
Ah ouais.
Donc, on
avec la partie, OTP.
Exactement, avec OTPP. Donc, OTPP. Globalement, ça veut dire le term sheet, les due deals, le pacte. Toutes les négos. Donc vraiment, comment est-ce que j'arrive à construire une gouvernance qui soit la plus flexible, la plus profondeur possible? Quelles sont les lignes rouges que nous, on souhaite défendre, même si elles sont contre-intuitives ou pas habituelles? Et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? C'est ça, mon job.
C'est super intéressant, parce que c'est ça un truc en général que les cofondateurs gardent ou gèrent, parce qu'en fait, c'est un peu un sujet sensible. Le fait qu'ils te confient ce truc-là, c'est un truc fort.
Oui, mais pour le coup, alors... J'ai le souvenir de la série A où, pour le coup, je pense que Jean-Charles m'a beaucoup appris, et c'est toujours la même chose dès lors que tu sais. Enfin, moi, je pense savoir exactement comment il pense sur ces sujets-là, en fait. Et donc, je pense que les fondateurs de Smartphone font confiance. Je leur fais évidemment valider, relire les idées et les progrès, et ensuite, c'est beaucoup d'exécution. J'ai juste, là, tu vas retrouver le besoin d'être très rigoureux, être prêt à relire 25 fois le document à 2h du mat, et pas lâcher le morceau, quoi. Et ça, pour le coup, c'est des choses que je sais très bien faire. Donc assez sympa, honnêtement. Ça, c'est un job qui est, où il y a beaucoup d'adrénaline, enfin tu le vois toi au quotidien quand t'investis.
Ah, c'est sûr.
Qui est assez chouette.
Et tu t'interfaces aussi avec le board, comment
ouais, ça... mais alors sous une format plus, enfin pour le coup plus formel. En gros, moi je fais le secrétariat général du board, donc okay. En gros, on assure avec le board pack et quali que les minutes sont bonnes, et par contre, ce qui est sympa, c'est que ça me donne la visibilité sur d'assister à l'intégralité du board, et puis après, en tant que contributeur sur les sujets people et corporate, là pour le coup.
Voilà, d'accord, donc t'as une vision très très 360 de ce qui se passe dans la boîte,
c'est
en fait.
C'est mon boulot, ouais.
C'est pas mal, ça, quand même. C'est chouette, parce qu'effectivement, quand tu commences chez Alan, ils sont moins 10, finalement.
On était 8, il y avait deux fondateurs et 6. On est restés, mais on est restés à 8 pendant plus d'un an, quasiment un an et demi.
Post-agrément, là.
De mémoire, Daphné, notre première ingé, est arrivée en janvier ou février 2017. Okay. Et l'agrément était fin octobre 2016.
Ok.
On a passé l'équipe de 8 initiale, on est resté ensemble. Ouais, 15,
ah ouais, donc une core team, une vraie core team. Et dans ces 8 d'ailleurs, il y a combien de personnes sont encore chez Alan?
Il y en a un qui est rentré aux États-Unis très vite, au bout de 3 mois.
Ok.
Mais pour des raisons purement perso, qui a rencontré sa femme, enfin, une histoire assez marrante. Il y en a un qui est parti. Dans la Suretech, qui a 2 ans et demi maintenant, et tous les autres sont encore là. On a notre GM France, on a notre lead designer, notre lead data, un ingé senior, des choses comme ça.
Ah, c'est une bonne stat, tout ça. Ouais. En termes de rétention de talent. Et tous ces gens ont évolué en termes de responsabilité aussi, toi, puisque tu as une casquette un peu plus people. Comment tu gères ce truc-là,
Alors pour le coup, c'est pas moi qui ai géré leur évolution. Honnêtement, ça s'est aussi beaucoup fait sur un double mix de capacité à culturer une équipe et à faire être certain que en fait on puisse recruter les bonnes personnes aux bons endroits et qu'on les embarque via Alan Way, qui est assez spécifique. Hein. Et ensuite, en fonction aussi des capacités de chacun. Voilà, t'as Fabrice qui passe dans le couloir là, et qui était. Qui a vraiment commencé en mettant la main, en écrivant ce qui était un contrat d'assurance, et qui lui avait fait énormément de management, avait été directeur de cabinet adjoint du ministre de l'économie et des solidarités, qui avait dirigé toute la partie d'assurance vie de chez Generali, et qui aujourd'hui est notre GM France, tu vois.
Ah ouais.
Donc, je pense que c'est aussi lié au... Chacun avait quand même ses propres expériences déjà, et Jean-Charles et Charles ont été capables de nous remettre sur une page blanche et les mains dans le cambouis tous.
Ouais.
Quel que soit le parcours précédent. Et ça, je pense que c'était une super... Honnêtement, je pense que c'était un des actes fondateurs de la boîte, et c'est ça qui a donné la dynamique. Comme quand tu compresses un ressort, et puis ensuite, ça explose, quoi. Mais ils ont su bien, bien compresser.
Et comment t'expliques... Il y a toujours un truc qui me surprend là dans les différentes interviews que j'ai pu faire, c'est que beaucoup d'Alaneurs sont ont plusieurs casquettes en même temps, quoi. Tu vois, j'étais avec Gabriel hier, c'est hallucinant, quoi. Il m'a expliqué ces trois, quatre, comme toi, tu vois, tu m'as expliqué trois casquettes. Je me suis dit, attends, trois casquettes, c'est déjà une. C'est parfois difficile à délivrer. Pourquoi toujours deux, trois, quatre sujets différents dans lesquels il y en a un où t'es lead, l'autre t'es contributeur, l'autre où tu participes. Enfin,
je pense que c'est vraiment la personnification, ce qu'on appelle chez nous distribution ownership. C'est-à-dire que si tu prenais, viens à la cantine à midi, je pense que tu peux te tirer au sort et tu aurais la moitié des personnes autour de toi qui, si elles étaient dans une boîte entre guillemets normale,
ouais, elles feraient un seul truc.
Et elles seraient le boss d'un département, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est des gens qu'on met en position aussi de doueur. Et donc, pour que ça tienne, et qu'il n'y ait pas de politique, qu'il n'y ait pas de sujet de guéguerre d'ego, etc., t'as absolument besoin, un, de leur donner un max d'autonomie sur leur projet, et en même temps, de leur permettre d'être contributeurs sur d'autres aspects de la strate de la boîte. Et ça s'imbrique très bien, en fait. Et puis ça nous donne une vraie capacité à être super flex par rapport à quelles sont les priorités de la boîte aujourd'hui. Et ça, de se remettre sur les chevaux tous les quarters et de se dire ok maintenant est-ce qu'on shift, comment ça bouge, je vais plutôt mettre l'accent sur ce trimestre-là sur les affaires publiques, je vais plutôt mettre l'accent sur la partie people. Et puis enfin, on n'est pas tout seul, ni Gab ni moi, enfin il y a des équipes d'experts sur leur domaine ensuite derrière. Donc moi, mon boulot, il est essentiellement maintenant aussi de, un, m'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon endroit, deux, faire grandir l'équipe, et troisièmement, aider à arbitrer, on va prendre des décisions, notamment d'un point de vue méthode, en fait.
Ok. Et si on regarde un peu le futur, c'est quoi les deux, trois défis dans ton giron à toi? C'est quoi les enjeux? Ça, c'est peut-être une question intéressante. Et l'autre truc qui m'intéresserait, c'est d'un point de vue très pratique, qu'est-ce que tu as copié-collé, ou en tout cas mis en application sur que ce soit ton XP à CPR ou à l'inspection générale, en mode ok, ça c'est vraiment un truc que j'ai crunché, que je masterise et je le mets en musique chez Alan, et ça nous a fait gagner toute la phase d'agrément qui est dans lequel on a pas mal creusé, mais c'est intéressant de voir en fait comment tu répliques les choses.
La deuxième question est plus dure, hein.
Ouais.
mais très bien, je vais essayer de réfléchir. Les gros enjeux dans mon giron, ils sont, je pense, si je dois t'en donner trois. Sur l'angle corporate, on a un très gros chantier qui est ultra excitant. Moi, j'adore parce que ça, c'est le genre de monstre où on me dit, oh là là, trop compliqué, pas possible, et puis ça touche à beaucoup trop de choses. Donc moi, ça m'excite, ces choses-là, sur lequel on bosse depuis quasiment un an maintenant, qui est qu'on a créé Alan comme étant une société d'assurance.
Ouais.
Parce que on pensait que c'était le bon moyen de rentrer sur ce marché de la santé en général,
ouais.
D'avoir un business récurrent, d'avoir accès à la sécu, aux docteurs, aux individuels. Le problème quand t'es assureur, c'est deux choses. C'est un, effectivement, t'es un business régulé, mais ça c'est le jeu, fine. Et puis je pense qu'aussi ça apporte la bonne sécurité aux membres d'Alan. En revanche, s'il faut être agréé pour pouvoir avoir le droit d'être assureur, le corollaire de ça, c'est qu'un assureur n'a le droit de faire que de l'assurance.
Ouais.
Donc j'ai pas le droit d'aller vendre des t-shirts et encore moins des services de santé, par exemple.
Okay.
Ce qui là, pour le coup, nous devient un bloqueur sur le développement stratégique de la boîte, puisqu'on a maintenant des technos propriétaires à la fois, y compris dans la manière dont on a construit des outils de gestion en assurance, mais plus généralement le travail qu'on fait sur la clinique virtuelle, sur Alan Mind, donc sur la santé, sur le bien-être mental, sont des choses qu'on souhaite pouvoir monétiser.
Ok.
Et donc sortir du champ du business réglementé de l'assureur.
Et comment vous avez... Enfin, c'est quoi,
et donc, pour le coup, on est en train de transformer avec l'équipe à la NSA en une holding et trois sociétés qui sont en dessous, un assureur réglementé, un intermédiaire d'assurance et une boîte tech pur jus.
Ah ouais.
Qui porte l'IP. Et ça embarque énormément de conséquences sociales, fiscales, réglementaires, en gouvernance, ça embarque tout en fait. Donc ultra ultra intéressant à monter. On en voit le bout du tunnel. Là, le 29 septembre, la CPR a officiellement publié l'avis qui fait que dans 2 mois, normalement, ensuite, on devrait être bon.
Okay.
Mais énormément de travail d'équipe. Pareil à nouveau. Voilà, t'es obligé d'aller très très deep, de voir comment tu maîtrises ta boîte et en même temps.
Donc avec une autonomie d'étroit.
Avec une autre, alors, ensuite avec la structure fêtière qui de toute façon ensuite maintient la gouvernance et puis des contrats entre chacune de services, entre chacune des entités.
Okay.
L'objectif étant en plus de garder la chose la plus transparente possible pour les alanners. Faut pas que les gens soient traités différemment, ouais. Y compris en termes de paye, de convention collective, exactement.
Ouais.
Donc même en culture, c'est assez intéressant pour le coup. Donc ça, super projet.
Ah ouais.
Et ça, je pense que c'est vraiment le numéro 1 sur la partie corporate. Sur la partie people, 2 gros chantiers. Le premier, il y a un chantier de scaling de l'équipe. On a une équipe qui reste extrêmement réduite, qui est honnêtement stress stretch, qui fait un travail de dingo pour garantir un bon service aux alanners, à l'onboarding, à l'offboarding, mais on n'arrive plus à être sur tous les fronts. Donc pour le coup,
c'est quoi la taille de l'équipe
aujourd'hui? Il y a 9 personnes.
Ouais.
Et on parle aussi de faire tourner l'Espagne, de faire tourner la Belgique, avec des cultures
qui sont parfois différentes.
Mais 125.
Ouais, c'est beaucoup.
Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été automatisées, tu vois. Mais il y a besoin de pousser ça, et puis de pouvoir investir davantage encore sur de la data, l'automatisation. Je trouve qu'on n'est pas au niveau des autres parties de la boîte.
Ah oui.
Sur la partie notamment vraiment connaissance hyper fine de la data, alors qu'il y a d'autres... Sur business assurance, on est juste phénoménalement bon. Sur les ops, pareil. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on soit... pas aussi bon en interne, je pense qu'il y a un vrai biais, et ça c'est un vrai choix que j'aurais pu discuter historiquement avec d'autres pairs, peut-être que voilà, si je refaisais l'aventure, je le ferais différemment, mais il y a toujours une tendance, quand tu as une ressource limitée, à privilégier le produit pour le client final que tes opérations internes. Et en fait, à quel moment tu te dis, bah là c'est l'investissement qui est bon pour le long terme, c'est toujours très difficile, et je pense avoir raté le coche sur certains de ces aspects.
Ouais. Après, c'est très corrélé à ta capacité à avoir ton product market fit parfait, quoi. C'est que je pense que Alan, déjà la marche est haute côté compagnie d'assurance.
Et puis ça évolue en permanence.
Et puis trouver son marché, valider.
Mais tu vois, c'est un investissement qu'on a fait en 2018-2019 avec Benjamin qui nous avait rejoint à l'époque, qui était la première personne qui m'a rejoint en finance à l'époque. Et pour le coup, la finance, jusqu'à l'arrivée de notre CFO à full time en tout début 2021, on tournait à 2,5, c'est un 2 plus une personne.
C'est
moi. Et en fait, chaque due deal, le truc était nickel, parce que tout était automatisé. Quoi. Après, il y a des flux, il y a beaucoup, beaucoup de flux, rien n'est très compliqué, c'est pas rocket science, mais on avait investi tôt et ça a été un bon pari. Chose qu'on n'a pas fait en people. Et le troisième qui est le...
people, c'est moins intuitif comme sujet. Tu peux dire, est-ce que c'est parce que tu... Enfin, je sais pas.
Oui, et en même temps, si tu veux vraiment savoir, en fait... Si tu veux vraiment prendre des bonnes décisions, t'as quand même besoin de savoir, tu vois.
Bien sûr.
Et quel profil je recrute, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il y a vraiment une mine d'or d'informations à sortir. Et le troisième challenge, qui est un challenge, je pense, vraiment de scale-up, j'en ai parlé récemment avec d'autres VP people, qui est le shift d'une culture extrêmement talent-oriented, talent acquisition.
Ouais.
Ah, voilà, là, j'ai de plus en plus d'alanners qui sont là depuis 3-4 ans. Quelle perspective leur donner en interne? Comment je les forme? Comment je les fais bouger? Je pense qu'ici, on a été assez fluide sur certains rôles. On a été plutôt pas mauvais avec les sales, avec les gens en care pour les faire bouger d'un rôle à un autre. C'est pas forcément évident sur tous les postes. Qui plus est, comme je disais, avec une organisation qui reste très flat.
Ouais.
Et les gens ont aussi besoin de visibilité un petit peu parfois dans leur carrière, sur les axes qu'ils veulent développer. Et ça, pour le coup, c'est un vrai chantier sur lequel j'ai pas encore la clé, mais qui, je pense, est un défi assez intéressant parce qu'il marque aussi une nouvelle étape dans la boîte.
Ah, c'est super intéressant. C'est intéressant ce que tu dis là sur les ops data. J'essaie de voir en fait, parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être encore plus efficace, quoi, c'est faire autant avec moins de gens ou c'est être plus rediven dans...
T'as les deux. Il y a encore des phases très low value added, que ce soit dans l'onboarding des personnes, dans l'offboarding, dans la paye, des choses comme ça qui sont parfois avec des complexités folles, d'autant plus qu'on pousse le work from anywhere, donc pour le coup avec des setups différents de chaque pays, etc. Donc ça, si t'arrives à l'automatiser, tu limites de la friction et des personnes qui bossent sur des choses à valeur ajoutée franchement moyenne. Mais c'est surtout quelles sont les bonnes décisions que je prends. C'est est-ce que je recrute les bons profils,
ouais.
Est-ce que j'ai des problèmes de coaching dans la boîte, est-ce que j'ai des patterns qui se répètent de personnes qui ont du mal à prendre des décisions tôt. On fait énormément confiance. À l'inverse, si on laisse traîner pendant 6-7 mois des personnes qui en fait sont pas à la bonne place, etc., et qu'on n'a pas le courage de prendre la décision d'arrêter, ça j'ai besoin de le voir en fait. Plutôt de me baser sur des soupçons.
La data peut-être. Ouais.
Sans aucun problème, parce que je sais quels sont les résultats des reviews, parce que des personnes, parce que je sais depuis combien de temps les gens sont là, parce que je sais qui est le coach, est-ce qu'il y a un pattern ou pas. Si.
Cool. Là, c'est intéressant. Ça. C'est une idée de boîte en fait.
J'en ai quelques-unes si tu veux.
Ok. Et donc, sur les un peu les sujets que tu as réutilisé des différentes expériences passées, une ou deux, est-ce qu'il y a des trucs que tu dis ah ouais ça c'est vraiment merci la CPR ou merci
oui, c'est très dur parce qu'il y a eu dans mon travail beaucoup de choses qui étaient de la méthode.
Ouais.
Je pense que la CPR m'a été utile pour trois choses. Un, la connaissance du réglementaire. Honnêtement, c'est une connaissance, c'est moi je trouve ça extrêmement intéressant, il y a peu de gens que ça passionne.
Mais je pense que c'est énorme. À partir du moment où t'es passionné d'un truc, c'est que le truc soit boring pour les autres, on s'en fout.
Exactement.
C'est sûr que ça a de la valeur.
Et ça, pour le coup, apprendre à naviguer ses environnements angulés, pour le coup, c'est assez priceless, en tout cas dans ce qu'on fait.
Ouais. Donc ça veut dire que t'es toujours, en fait, quand il y a des sujets un peu de, tu parlais d'influence ou de lobbying auprès des opérateurs publics ou auprès de la Sécu ou auprès de d'autres assureurs, parce que là en fait Alan il y a 5 ans vous étiez tout petit, mais là en fait les autres AXA et les autres regardent en disant mais what the fuck, ce truc existe, continue à exister, continue à grossir en fait, et donc forcément t'as une autre manière de gérer ta relation avec eux. Et puis ça vient des contreparties business aussi.
Ouais. Alors c'est moins lié à la CPR que à vraiment la partie inspection des finances. C'est-à-dire que la CPR pour le coup est une autorité indépendante. Je pense que c'est le fait de savoir les arcanes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est attendu, c'est beaucoup plus facile de te. Je pense que tu démystifies aussi la chose. C'est-à-dire qu'à l'inverse, tu veux créer ta boîte, on te dit qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais jamais y arriver. C'est aussi des gens qui ont leurs process, qui ont leurs intérêts, qui ont leurs règles quoi.
Ouais.
Donc ça t'aide aussi, je pense, à avoir moins peur.
Okay.
Parce que tu comprends ce qu'il y a derrière. Et puis ce que je te disais sur la CPR, le côté hyper versatile, ça pour le coup ça me permet de passer voilà du corporate à la finance, aux taxes, au social en une journée, sans ça me pose pas de problème ça. Donc ça je l'ai retiré de la CPR. L'IGF, la rigueur de l'écrit, mais ça c'est tout à l'âne maintenant, mais ça me fitait très bien avec ma culture pour le coup. Et effectivement apprendre à naviguer, pour le coup présenter des choses dans l'angle plus politique, naviguer un process parlementaire, savoir que c'est qu'un projet de loi de finances, à quel moment je m'insère dedans, qui je dois aller voir, ça c'est des choses qui ont aussi pas mal de valeur.
Sauf ce qu'il soit.
Oui, mais alors pas que, parce que en réalité t'as vraiment de la valeur dans ces échanges là si t'apportes des vrais hard skills, des vraies choses du terrain.
Ouais,
je pense qu'on a trouvé un très bon positionnement, notamment avec les pouvoirs publics, en étant concrètement capable de leur expliquer ce qu'on savait faire, ce qu'on avait vu sur le marché, là où la plupart du temps ils vont trouver des lobbies d'assureurs qui vont leur dire non, c'est pas possible. En fait, il y a des choses qui sont très faisables, qui les saoulent, qui leur coûtent cher, et donc être capable de soulever le capot et dire non, ça c'est faisable, ça savait pas, ça donne un positionnement qui est très différent. Et puis après, dans les choses que j'ai réutilisées aussi, tout le knowledge sur des choses un peu plus différentes, mais le knowledge tax par exemple, pareil, ça c'est des knowledge. En gros, j'ai eu l'avantage d'arriver avec un knowledge assez sous-exploité. Sur des champs qui sont en général assez sous-exploités dans les boîtes.
Ouais.
Moi, les taxes, j'adore ça. Je sais faire très bien. Mais résultat, on a pu être hyper tôt assez créatif sur la partie BSPCE, par exemple. Et pouvoir échanger régulièrement avec le ministère des Finances en disant, tel truc, est-ce qu'on pourrait pas le faire bouger pour... Et ça, pour le coup, tu crées de la vraie valeur pour tes actionnaires et pour tes salariés, quoi.
Ouais, ça, c'est cool. Et à l'inverse, finalement, comme tu disais tout à l'heure, tu discutais avec tes pairs sur les sujets people.
Ouais.
C'est quoi les trucs que tu dis, ah ouais, ça, vraiment, avec Alan, je suis passé de ce niveau-là à ce niveau-là?
Ce que moi, j'ai appris?
Ouais.
Bah, le changement le plus radical pour moi, ça a été d'apprendre, et c'était le plus contre-intuitif, hein. Je te disais au tout début que mon modèle de fonctionnement à l'IGF, c'était, tu deviens l'expert d'un sujet que tu connais pas en 3 mois. Donc t'es en mode silo, mono-sujet. Et tu vas, mais à fond. Et Alan m'a juste appris à avoir 15 casseroles à gérer, 3 qui brûlent, et n'en regarder qu'une. C'est extrêmement difficile. C'est hyper dur, en fait. Ouais, de changer ton mindset et de dire, c'est quoi vraiment... Et Jean-Charles est une bête là-dessus, de priorisation. Te dire, c'est quoi vraiment le vrai, vrai problème pour la boîte. Être capable de te dire, tous les problèmes n'ont pas les mêmes degrés. Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut défaire, qu'est-ce qu'on peut pas défaire. Et donc, où est-ce que je peux complètement accepter de juste prendre le risque, me baser davantage sur l'intuition, ouais. dès lors qu'on le documente et qu'on revient derrière.
Good is enough.
Ouais. Et ça, c'est l'inverse d'un mindset de bon élève français, good is enough.
Ouais. Enfin,
c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait, et tu finis par perdre de l'énergie pour chercher la mauvaise virgule, quoi. Je pense être quand même encore un peu chiant sur la qualité des rendus, parce que moi, je fais encore beaucoup d'extérieur. Je pense qu'on n'envoie pas un document au board ou à du public qui soit pas quali sur le fond. Mais apprendre à retirer tout le superflu pour être vraiment... Et j'y suis pas encore complètement.
Done is better than perfect, quoi.
Ouais. Et ça, c'est très contre-intuitif pour un Français, je pense. En tout cas, pour nos profils.
Ouais. Non, c'est super intéressant parce que effectivement, t'arrives. Je connecte les points là avec les différentes personnes que j'ai pu avoir jusqu'à cette interview. Effectivement, c'est une culture quoi, ce truc de 85%. Là. Gabriel me disait, en fait, il est capable, en parlant de Jean-Charles, qui était capable de shipper un truc à 85%. Et en fait, il vit très bien avec, mais il le fait par contre en une demi-heure.
En deux fois moins de temps. Exactement.
Donc là où les gens passent quatre fois plus de temps et et on s'en fout, quoi, finalement, que ce soit parfait à 100%.
Gros truc. Et je pense que le deuxième, la plus dans l'attitude. Un, sur l'ambition des choses que tu peux te fixer. J'ai un souvenir assez marqué de Jean-Charles, et là, pour le coup, ça va paraître pas du tout modeste, c'est pas grave. Où j'ai un souvenir de premiers échanges qu'on avait pu avoir avec des auditeurs. Et où t'as ce positionnement un peu de police, et tu te dis, oh là là, moi je connais pas, eux connaissent, eux l'expert. Et comment tu te places par rapport à des experts, à des avocats qui sont extérieurs. Et en fait, Jean-Charles me rappelant qu'en fait, toi tu connais ton business, tu connais d'où tu viens, versus les gens qui sont à l'extérieur, et ça crée une telle asymétrie qu'en réalité, c'est-à-dire que t'es prêt à aller assez deep, franchement tu seras facilement au même niveau, voire meilleur. Et donc, ça m'a énormément poussé à me dire, ok, on est capable de prendre, je saurais internaliser, on sait faire, on vérifie, on se back sur certaines décisions. Mais de pas laisser tout le savoir à l'extérieur et croire que les sachants ont le savoir et que je dois prendre pour parole les vagines ainsi parce qu'ils tombent. Je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on a pu challenger des choses qui nous avaient été dites. Je t'ai parlé tout à l'heure de comment on se lance à l'international. On a pris un setup d'un point de vue légal et réglementaire qui est juste orthogonal avec tout ce que les juristes nous disaient, tout ce que les CPR nous disaient au début. Au 4 mois de travail, on leur a montré par A plus B que ça s'est marché. Et c'est ce qu'on a pris. Et ça, c'est des choses où à la fin, tu te dis, ok, là, j'ai été malin et on a créé la valeur. Donc j'ai ça, et en attitude la plus perso, le feedback. Le feedback, c'est pas l'attitude à Bercy, c'est pas l'attitude dans les couloirs des ministères, parce que la transparence n'existe pas, parce que le pouvoir, c'est d'avoir l'info que le voisin n'a pas, quoi. C'est tout l'inverse ici. Et ça a dû aussi me changer mon logiciel, pour le coup. De communiquer sur tes échecs, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. J'ai raté ça, là on va dans le mur sur tel truc. Parfois tu prends des bonnes leçons d'humilité là où dans les univers précédents il y a quand même besoin de maintenir un certain standard de façade.
C'est intéressant. Et on parlait un peu de perso là au début de l'entrevue, le perso, comment t'arrives à gérer ton perso? Parce que t'as...
Le perso famille avec les enfants?
Ouais.
Ah, mais alors maintenant j'en ai eu d'autres des enfants.
Bah oui.
J'en ai trois.
Ouais.
Écoute, moi ça me donne mon équilibre. J'ai organisé ma vie pour que ça marche. Et Alan fait que ça marche parce que, comme je te le disais, il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient assez, entre guillemets, âgées. La moyenne d'âge, c'est pas du tout la moyenne d'âge de sortant d'école. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des enfants ici.
Ouais.
Et deuxièmement, la synchrone change tout. Moi, je dis le lundi, je vais faire la sortie piano, le mardi, le cours de sport. Et alors, évidemment, je me reconnecte, mais moi, j'y trouve mon rythme, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que, pour le coup, je suis plutôt un animal du soir, donc aucun problème pour rattraper ce que je dois faire. De toute façon, je suis asynchrone.
Et cette culture de l'écrit permet de le faire, en fait.
Exactement. Et pour le coup, parce que tu perds pas d'infos, parce que tu es respectueux de l'agenda des autres, qui sont peut-être pas du tout le même que le tien. Et même la perte d'infos est vraiment le prioritaire, je pense. Le fait d'être à distance ou pas à distance, le fait d'être... Il y a plus syndrome, il fallait que je sois à la réunion uniquement pour avoir l'info, parce que sinon je l'ai pas, quoi. Et ça change tout. Et après, ça demande évidemment un peu d'orgas, et puis on est aussi aidé. J'ai la chance d'avoir... J'ai une nounou, tout le monde a pas ça, quoi.
Ouais. Oui, parce que les heures, quoi, enfin, le, à mon avis, la charge, les enjeux sont importants. Donc forcément, avec un rôle comme le tien, ouais. Il doit y avoir quelques challenges hebdomadaires à relever. Donc, forcément, quand t'as, dans ta vie perso, quand t'as trois gamins, ce qui est une autre boîte à côté, ça demande un peu
ils
de.
Ils ont tous été ouais, fait en parallèle d'Alan. Donc si j'ai pas connu sans, je pourrais pas te dire la différence. J'ai vu des regards un peu changer sur des gens qui ont eu des premiers enfants en disant ah oui, donc t'as fait ça avec les enfants, c'était pas évident en fait. Mais honnêtement, il y a aussi une équipe qui est tellement à fond, quoi, que tu c'est pas un problème. Et en même temps, les gens comprennent ça. Et pour le coup, ce que je pense qu'on a plutôt bien instauré, c'est. La symétrie n'est pas uniquement liée aux enfants, en fait. C'est ton regard perso, point barre. C'est-à-dire que ce que je veux pas arriver, ah oui. En plus, c'est le côté, j'ai des enfants, j'ai le droit de partir, mais si t'as pas de gosse, pourquoi tu vas au yoga, quoi?
Ouais. On s'en fout,
non,
quoi.
Ça, on s'en fout.
C'est pas le sujet. Bon, un grand merci, Paul, parce que je vais pas te garder plus longtemps. C'était très intéressant. Je trouve que t'as une casquette et un regard très singulier sur ton job et sur ton, et la mission que tu te donnes toi-même, je pense que c'est vraiment bravo, parce que je pense que c'est un engagement sans limite, et je pense que Alan a beaucoup de chance, et bah, j'ai hâte de connecter les points avec les okay. autres pour voir comment ça marche.
Super, mais c'est un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao!